What'd you do?
You'll shoot your eye out, kid.
I am serious. And don't call me sir.
Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
Non, là, c'est l'histoire d'un mec. Mais un mec. Pas. Non, je. Normal, quoi, je veux dire.
Atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
Bonjour.
Bonjour.
Je l'ai dit avant lui.
Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue à votre émission ATC, l'émission
que vous regardez à la télé.
Et voilà, et à la radio surtout, parce qu'à la télé, les images, elles, bougent pas beaucoup.
Je vais faire un striptease.
Oui, il se dessape, c'est formidable, c'est extraordinaire. Voyons la scène au ralenti. C'était admirable, surtout à la radio. Désolé, mesdemoiselles, il y aura une grosse transmission sur YouTube, si vous voulez.
Non, YouPorn.
Ok. Alors, eh bien, aujourd'hui, ATC s'intéresse au biopic.
Ah, c'était ça ?
Oui, c'était ça. Alors, mon cher Hugo, qu'est-ce qu'un biopisme ?
Alors, c'est une photo qui est bio. Biopix. Ah non, pardon. Alors, un film biographique, monsieur Gwen, hein, également connu dans le milieu du cinéma sous l'anglicisme.
Biopic.
Voilà, qui veut dire contraction de Biographical Motion to Picture.
Tout ça, bah, ils ont bien fait de...
Oui, de contracter. Poussée, madame, est une œuvre cinématographique de fiction centrée sur la description biographique d'un personnage principal ayant réellement existé.
Oui, c'est mieux. Ouais, c'est préférable.
Oui. Hein.
Sinon, on appelle ça une fiction, en gros.
Ah, j'ai compris maintenant. Les événements et l'environnement de son époque sont donc subordonnés à son récit. Le genre donc est devenu populaire, particulièrement depuis les années 80, grâce au progrès des techniques d'imagerie, rendant possible la reconstitution de paysages et des zones urbaines d'époque crédibles pour le spectateur. Voir la fusion d'images d'archives avec des images tournées pour le film comme dans Aviator de Martin Scorsese, où ont été mélangés, après avoir été colorisés et traités, des plans de reportage en noir et blanc de la première du film Les Anges de l'Enfer 1930, avec des plans de la première mise en scène en 2003 avec les acteurs of the film.
Ouais.
Donc, comme l'a dit Monsieur Gwen, un film biographique relate l'existence d'un personnage.
Un personnage ?
Non, un personnage.
Un personnage ?
Oui.
Ah bah oui, ça va être de saison d'ailleurs.
Un personnage passé. La plupart du temps, je ne sais pas si on va en faire une sur toi de biopic.
Non, ça va être chiant.
Oui, c'est vrai. La plupart du temps, mais sans que cela soit obligatoire, une figure historique d'importance. Ça ne veut rien dire ma phrase, hein. J'ai pas respecté la ponctuation. Oui. Son choix importe pour susciter la fréquentation lors de la sortie en salle. Comme il s'agit d'une œuvre artistique, la représentation donne le champ libre à l'interprétation à la fois pour l'acteur chargé du rôle principal et pour le réalisateur dans l'éclairage qu'il donne sur le personnage. L'occasion est donnée de différer du consensus. Il me semblait qu'elle allait faire un mugissement. Laissé par le discours officiel et l'hystériographie à propos du sujet traité. Le film décrivant la vie de Clint, avec un K.
Ah, Klimt.
Dérive de scènes historiques reconstituées sur Vienne en imagerie onirique, laissant l'impression d'un portrait du peintre empreint d'érotomanie.
Waouh, c'est bon ça.
Qu'est-ce que c'est que ce mot, Gwen ?
L'érotomanie, eh ben, c'est quand on aime beaucoup que ce soit sensuel, mais pas pornographique.
Bien. Je vois que tu es un connaisseur.
Ah bah oui.
Ça m'en a fait perdre ma phrase. Ah, bon. Qui est l'éclairage donc subjectif propre à la part...
12 ?
Non. À la patte du réalisateur Raoul Ruiz.
Ah bah oui.
En revanche, les réalisateurs inspirés pour une cause de l'os fréquemment allaient à l'excès inverse, hein, celui de donner une image hagiographique en idéalisant le sujet.
Et oui, c'est souvent un peu, hélas, le cas.
C'est le travers dans lequel Spike Lee finit par donner en tant qu'autorité morale pour la communauté noire dans son biopic sur...
Malcolm X.
Malcolm X, donc faire une hagiographie passionnée du sujet malgré la complexité de l'activisme des années 70 aux États-Unis qui alimentait le climat de ses assassinats. C'est pour le moins la lecture que peuvent donner les critiques des cinémanesques. Le genre de film est par ailleurs parfaitement intégré au star system dans la mesure où le choix de l'acteur qui incarne le personnage est lui aussi facteur d'adulation pour les masses et provoque des entrées, hein, bien sûr, sous-sous. On va voir un biopic autant pour le personnage que pour l'interprète qui le joue. La relation d'identification profitant à la carrière de ce dernier et à son image auprès du public. C'est particulièrement le cas pour l'interprétation...
Oui.
Gwen n'a pas trouvé. Dali.
Dali McBeal ?
Non, Dali. Ou les efforts draconiens de la star Will Smith. Pour prendre du poids afin de coller à la corpulence du boxeur accompagne a posteriori l'aura de l'acteur identifié au sein de la communauté noire pour avoir représenté la figure qui participa à l'accession de celle-ci aux titres les plus prestigieux du monde de la boxe américaine.
Ouais, bah c'est comme De Niro pour Raging Bull, quoi. Il avait aussi pris du poids.
Le tout est de ne pas le garder. Le titre du film est parfois simplement le nom du personnage principal, comme moi.
Non. Ah bon, il y a un film qui s'appelle Hugo ?
Oui.
Ah bon ?
Hugo Boss. Toutefois, il serait bien réducteur d'affirmer qu'aller voir un biopic serait dû à suivre une biographie, hein, sinon ça serait un peu chiant.
Oh bah, ça serait du documentaire surtout.
Oui, la matière fournie est souvent prétexte au choix d'une intrigue se focalisant sur les moments les plus déterminants de sa vie, ceux qui l'ont fait entrer dans l'histoire dans la plupart des cas, ce qui permet le développement du climax. Et des caractéristiques des films à succès. Développement de la dimension humaine du protagoniste projeté sur des événements qu'en résumé biographique éclipse. Voire introduction d'une thèse sur le destin du personnage à partir d'une énigme que de nouveaux éléments d'archives auraient permis de dévoiler. Donc largement identifié comme type de film apprécié du public, le film biographique regroupe aujourd'hui un large spectre du cinéma mondial associant des super productions tels Alexandre, hein, comme le retour sur les personnages beaucoup plus modestes, au regard d'un récit national comme Sophie Scholl, Les Derniers Jours, dont la sortie concorde avec une réflexion en Allemagne sur la période la plus sombre de son histoire. D'où la question, y a-t-il trop de biopics ? Les véritables stars de la soirée des Golden Globes, c'est-à-dire moi,
oui,
n'étaient pas présentes. En l'occurrence, il s'agit de Margaret Thatcher et Marilyn Monroe. Oui, bah, m'excusera, elles ont un peu dans la tombe maintenant. Oui. Les actrices, hein, Meryl Streep et Michelle Williams, qui les incarnent à l'écran, ont en effet été récompensées pour leurs prestations respectives dans...
Weekend avec Marilyn et The Iron Lady.
Bien, de Simon Curtis et de Phyllida Liu. La première donc a reçu le prix de la meilleure actrice dans un film dramatique et la seconde le prix de la meilleure actrice dans un film comique. Donc bien sûr, vous avez compris,
oui.
Thatcher, c'est pas le film comique.
Pas vraiment, non, encore que ça dépend.
Donc après 2011, hein, qui avait largement consacré cette tendance, 2012 s'annonce comme l'année des biopics. Comprenez, ces films qui... on va insister.
Oui, biopics.
Ces films qui retracent la vie d'un personnage célèbre. Outre Marilyn Monroe, Margaret Thatcher, le peintre aussi, Bruegel, et G. Edgar, hein, Hoover, le patron de la CIA, incarné par Leonardo
DiCaprio.
Oh, il a bien dit. Dans le film de Clint
Eastwood.
C'est bien. On pourra bientôt donc retrouver au cinéma Maria Callas.
Et même, je crois qu'en 2013, il y en a d'autres, mais ça, j'en parle.
Non, il y a aussi Mandela. Il ne fallait pas le dire. Désolé.
Ah non, non.
J'ai tué ta rubrique. Si autrefois les biopics étaient une spécialité hollywoodienne, le cinéma français, hein, louchant sur les succès américains, bien sûr, Business is Business, s'est récemment mis au diapason. Le triomphe de...
Coluche, l'histoire d'un mec.
Non.
Clocolo.
Non.
La môme.
Oui. De Olivier Dahan. Ouais. Sur la vie, bien sûr, de...
d'Edith Piaf,
célèbre oiseau chantant, a définitivement décomplexé les producteurs français qui courent désormais après ces projets réputés plus faciles à produire et à même à faire le plein de la caisse.
Eh oui, il faut faire plein la caisse, comme dirait le chat.
Donc ces dernières années, les biopics français se sont multipliés, comme l'a dit Gwen, Coluche, Mesrine ou Mérine. Comme
oui, c'est vrai.
Coco Chanel.
Oui, et puis encore, il y en avait deux de Coco Chanel.
Françoise Sagan et Serge Gainsbourg ont chacun eu droit à leur film sur mesure. Tout le monde donc trouverait son compte dans un biopic. Le public aurait soif de revoir son idole revivre à l'écran, le comédien qui trouverait l'occasion donc de se fendre d'une performance bluffante, généralement récompensée d'un prix. Et donc le producteur qui prendrait moins de risques. Et le cinéma dans tout ça, me direz-vous, monsieur Gwen ?
Oui, et alors le cinéma, quoi n'est-ce que ni, hein ?
C'est bien. Les cinéphiles donc reprochent souvent aux biopics d'être formatés pour plaire et de manquer d'aspérité. Donc, très linéaire, hein, souvent. Oui. Ces films flirtent en effet trop souvent dans la géographie. Pour être honnête, donc celle que quelques réalisateurs sont parvenus à véritablement transcender le biopic en sortant des sentiers battus et en déjouant les règles du genre. Le meilleur exemple, bien sûr, à ce jour est sans doute celui de I'm Not There, film concept qui aborde de manière fragmentée et labyrinthique la vie de Bob Dylan. C'est à vous, monsieur.
Oui, Gwen. Alors, effectivement. Eh ben,
bonjour. Bonjour.
Tu avais parlé, évidemment, des réalisateurs qui prennent un parti pris. Effectivement, alors, The Doors d'Oliver Stone en 91. Évidemment, le célèbre groupe de rock avec Jim Morrison, Robbie Krieger, le guitariste, c'est celui qui avait fait Light My Fire. Ray Manzarek, qui est d'ailleurs décédé au mois de mai, là, le 20 mai. 2013, oui.
C'est tout à fait inaperçu, ça.
Bah, faut dire que le groupe était séparé depuis 73, donc.
C'est claqué la porte.
Oui. Donc, évidemment, donc Val Kilmer joue le rôle de Jim Morrison, Meg Ryan celui de Pamela Coulson, la fameuse compagne de Jim Morrison qui lui survivra que 2 ans, puisqu'elle a été retrouvée morte d'une overdose en 74.
C'est une bonne année.
Oui, Michael Wincott qui joue Paul Rothschild, le producteur. Kyle MacLachlan qui joue Ray Manzarek. Donc évidemment, la montée du groupe Sex, Drug and Rock'n'Roll, célèbre adage de l'époque. La verve psychédélique de Jim vaut les dires d'un certain public, mais la renommée et la grisée. Jim se laisse séduire par les trompettes de la renommée, provoquant une scission avec le reste du groupe. Le fameux concert à Miami, où il commence à insulter le public et à montrer ses testiculasses. Donc il y a eu un procès pour exhibitionnisme, voilà. Et évidemment ensuite il y a le départ pour Paris où on le retrouvera mort. On croit que c'est une insuffisance cardiaque. Bon, après il y a des histoires de drogue. Et c'est juste.
Ah, mais il est mort.
Il est mort. Oui, il est mort. Et il est d'ailleurs enterré au Père Lachaise.
Je suis troublé.
Oui, moi aussi. Donc en fait c'était le. Et d'ailleurs c'était le premier film 35 mm en cinéma digital sound. Très bon pour évidemment la musique des Doors, qui est très très importante dans le film. Alors par contre, là, on prend vraiment un parti pris parce que Oliver Stone, lui, travaille surtout sur le côté drogue, alcool et bizarrement, alors c'est Jim, le reste du groupe, que ce soit Ray, Robbie,
c'est souvent le cas.
Oui, mais bon, c'est
tu
dommage.
Queen, c'est pareil avec Freddie Mercury.
Oui, mais voilà, bah, d'ailleurs, pas. Il va y avoir un biopic avec notre Sacha Baron Cohen, notre cher Borat. Oui, qui va reprendre le rôle. Mais par contre, moi, ce que je trouve dommage, c'est que, subjugué par le succès, il va tomber dans les affres de la drogue. Mais bizarrement, on voit pas beaucoup travailler. Tu vois, c'était vraiment un mec qui faisait de la poésie et tout. Et ça, bizarrement, c'est passé à l'as. Tu vois, le parti pris, c'est vraiment monter ce truc. D'ailleurs, moi, ça me fait penser à un autre film, The Rose de Mark Riddle, en 79. Oui. Là, logiquement, ce film devait être un biopic de Janis Joplin, mais Bette Midler a refusé. C'est en fait l'histoire d'une chanteuse qui est prisonnière de l'alcool, qui subit les pressions de la célébrité et des tournées en 2013.
Déjà ?
Et oui, en 2013, il y a 2 biopics qui vont se faire sur Janis. Donc un
carrément.
Oh, oui. Donc le premier, Janis Joplin Get It While You Can, de Lee Daniel, à qui on avait eu le Pipe Boy. Avec Nicole Kidman. Oui, et c'est Amy Adams qui va jouer le rôle de Janis, donc celle qu'on a vue dans The Master, Man of Steel, qui va bientôt sortir, là, le film sur Superman. Et Une Nouvelle Chance, le film avec Clint Eastwood, hein, sur le baseball. Il y a aussi le film de Joplin, de Sheen Durkin. Par contre, là, ça va être que 6 mois de la vie de Janis. Et ça va être joué par Nina Arianda, qu'on a vu dans Minuit à Paris de Woody Allen. Et il y a aussi prévu un film avec Jeff Buckley, l'homme qui savait pas nager dans le Mississippi.
Mais quelle idée, il y a trop de courant.
Oui, aussi, tout à fait. Notamment, donc, Janis, cette fameuse rockstar qui arrive dans les fins des années 60, qui a des performances vocales extraordinaires, qui est surnommée la reine du rock'n'roll. Évidemment, légèrement un petit peu dépendante aux amphétamines, à l'héroïne. Il y a un certain alcool qui s'appelle The Southern Comfort.
Donc c'est une... Consommer avec modération.
Oui, là, ça, c'est une liqueur de Louisiane à base de bourbon et de pêche.
De pêche, le fruit.
Vous voyez, voilà, voilà. Oui. Et puis, je pense que bah, c'est là aussi les biopics, ça marche pas mal parce que c'est aussi sur les histoires d'amour, puisqu'elle a été quand même amante de Jimi Hendrix, de Leonard Cohen, de Country Joe McDonald, non pas celui auquel vous oui. pensez. Évidemment, et elle est évidemment connue depuis le fameux festival de Monterey en juin 67. Et elle est morte d'une surdose d'héroïne en 70, 2 semaines après Jimi Hendrix, le fameux club des 27, puisque Jim Morrison en fait partie, Janis Joplin aussi. Puis il y a aussi un autre, mais que je parlerai un peu plus tard. Moi aussi, dans le... bon, alors, pas vraiment dans la même veine, hein, forcément, c'est notre cher Clo-Clo National. Le film de Florent Emilio Siri en 2012, avec Jérémy Régnier qui joue le rôle de Claude, Benoît Magimel qui joue le rôle de Paul Lederman, le célèbre producteur, hein, et Monica Skita qui joue Choufa François, la mère de
Clo-Clo.
De Clo-Clo, et Sabrina Sevoco qui joue Josette, la sœur de Claude, et évidemment... France Gall aussi, hein, qui jouait par Joséphine Japy. Donc, évidemment, le destin tragique d'une icône de la chanson, mort à 39 ans. Non, il ne fait pas partie du club.
Non, il fait partie du Jura.
Voilà, c'est ça. Et d'une mauvaise applique murale surtout. Donc en fait, un fils qui a toujours recherché l'excellence dans le regard de son père, qui l'a renié.
D'où Jérémy Régnier.
Renié, ah, pas régné. Non, ça c'est à Monaco ça.
J'entends mal.
Voilà, c'est ça. Donc, et en fait, effectivement, Claude François a toujours cherché, puisque son père l'avait destiné. Tu sais, ils ont été exilés. Son père a tout perdu. Évidemment, il voulait que son fils suive la lignée et de nouveau vienne quelqu'un d'important. Or, Claude François voulait lui débuter dans la musique. Son père l'a renié et il ne lui a jamais parlé jusqu'à la fin. Il est mort sans avoir parlé, sans avoir pardonné à son fils. Et ça a beaucoup bouleversé la vie de Claude François. Ce qui fait qu'il est devenu maniaque.
Voire chiant, oui.
Bah, il était super chiant. Moi, je trouve que ce film, il le fait très bien parce qu'on voit effectivement, il peut être hyper sympathique à un moment, mais il est quand même super, super maniaque.
C'est un bourreau du travail.
Hein. Il est un bourreau du travail. Les gens qui ont travaillé pour lui ont été virés à maintes fois parce qu'il pouvait en plein concert, si t'avais fait une fausse note, venir danser près de toi et dire allez hop, t'es viré, tu te casses. Mais bon, tu savais que le soir même, tu étais re-engagé. Hein. Et puis, moi, c'est surtout sa relation avec France Gall parce que, évidemment, elle, il l'aime. Bon, elle est un peu neuneuse, hein, quand il faut bien l'avouer. On l'avait déjà vu dans le film de Gainsbourg. Mais elle est un peu neuneuse, oui. Et en fait, c'est-à-dire que moi, ce qui m'avait quand même choqué, c'est le moment où elle gagne l'Eurovision. Tu sais, avec Poupée du Cire,
Poupée de Fion.
Oui, et ben voilà. Et donc, lui, logiquement, quand ta compagne a quand même réussi quelque chose, l'Eurovision, c'est pas non plus les sommités, mais voilà. Et ben, lui, il la laisse devant la porte, elle pleure, il la renie parce que elle a réussi quelque chose que lui, il n'a pas pu faire. Et sa mère aussi, qui est addict au jeu et qui va pas mal faire perdre sa fortune. Donc non, je trouve que ce film, il est très très bien fait.
Et surtout, l'acteur est vraiment très ressemblant.
Oui, oui, ça c'est vrai. Oui. Alors c'est vrai qu'après, il y a d'autres films un peu dans le même genre. On va faire un pléthore.
Il y en a beaucoup hein, sur les musiciens.
Oui, bah, il y a Ray, en 2004, de Taylor Hackford, avec Jamie Foxx, qui joue évidemment Ray Charles. Hein, cet enfant aveugle qui va devenir évidemment... le chanteur qu'on connaît, le chanteur aveugle qu'on connaît.
Et qui avec... conduit aussi, hein, dans et une qui célèbre conduit, pub.
Et il y a aussi Kerry Washington qui joue sa femme et que le couple s'est retrouvé dans notre cher Django Unchained.
Tu avais aussi Bird, hein, de Clint.
Oui, aussi Bird, évidemment. Et puis, bon, puisqu'on va faire aussi un peu français quand même, il y a la môme, évidemment, d'Olivier Dahan, hein, la fameuse Edith Piaf, jouée ici par Marion Cotillard. Avec
Marion Cotillard.
Oui, Jean-Pierre Martin qui joue Marcel Cerdan. D'ailleurs, dans ce film, elle meurt un peu mieux que dans Batman, d'ailleurs. Gérard Depardieu qui joue Louis Le Pelé. Oui, tout à fait. Jean-Paul Rouve qui joue Louis Gastion, son père. Hein. et Sylvie Testu qui joue Momon, son ami un peu aigri, il faut bien dire. Donc évidemment, il y a toute son enfance malheureuse, abandonnée par sa mère, recueillie par ses grands-parents, son père vient la récupérer, elle tombe aveugle, elle est soignée par des prostituées, dont une qui voudra presque quasiment devenir sa mère. Elle est retirée de nouveau par son père, là elle commence à chanter, évidemment, et après il y a les années de bohème avec sa copine Momon à siffloter au goulot, la perte de son enfant, et puis évidemment la rencontre avec le personnage de Gérard Depardieu qui va un peu la diriger, son éducateur qui va lui faire arrêter ce petit accent argotique qu'elle avait. Et vraiment, oui, parce qu'elle avait quand même un peu...
Léger, t'es gentil.
Oui, voilà, c'est ça. Et puis évidemment, les premiers succès, les grandes chansons, et puis surtout sa rencontre avec Marcel Cerdan, évidemment. Moi, je trouve qu'il est très très bien fait, parce que évidemment, alors souvent dans les biopics, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que... on a le personnage à l'heure actuelle, si on veut, puisque évidemment c'est pas en 2012, il est déjà décédé depuis quelques temps. Et puis évidemment avec ses souvenirs fur et à mesure de l'histoire, qui ne sont souvent pas d'ailleurs chronologiques. Et d'ailleurs c'est très marrant puisque Édith Piaf est enterrée au Père Lachaise, donc dans le même cimetière que Jim Morrison.
Oui, mais c'est souvent. Mais d'ailleurs, il y avait déjà eu un premier film qui s'appelait Edith et Marcel.
Oui, voilà. Mais après, non, mais je veux dire, il y en a tout plein. Parce que, évidemment, nous, on fait plus les actuels. Enfin, moi, j'ai trouvé plus les actuels. Mais effectivement, si on va rechercher, oui, il y a quand même beaucoup de films. Sans parler aussi des téléfilms, parce que là aussi, il y en a un pléthore, comme on dit. Donc, moi, j'avais un genre. Moi, c'est ce que j'appelle des artistes plus du passé. Farinelli, de Gérard Courbiot, qui est un peu spécialiste du genre d'ailleurs, en 1994. Donc évidemment, alors par contre là, on tombe dans une biographie romancée, c'est-à-dire qu'on s'empare du personnage de Farinelli, mais c'est pas vraiment l'histoire. Les aficionados se crieront à l'hérésie. Donc évidemment, la biographie romancée du castrat Farinelli, dont le grand frère Riccardo Brocchi décide de le faire castrer pour qu'il garde évidemment sa voix cristalline, unique. Une jeune femme, Alexandra, vient leur demander de l'aide pour lutter contre la faillite d'un petit théâtre. S'engage alors un combat entre les frères Brocchi et le grand Heindel, leur ancien maître. Le théâtre remonte grâce à la voix de Farinelli, qui devient une star, entre guillemets, puisqu'à l'époque le terme n'existait pas. Mais Heindel veut avoir la voix de Farinelli. Heindel parlera de l'accident qui a valu cet état à Carlo, donc Farinelli. Et évidemment, c'est la scission entre les deux frères. Alexandra et Farinelli sont amoureux. Riccardo fera un enfant à Alexandra avant de disparaître dans l'armée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a jamais eu cette histoire de Riccardo qui le fait castrat juste pour avoir sa gloire. Et il n'y avait pas, évidemment, ce gros combat entre Heindel et Farinelli. Pour avoir la voix, parce que les castrats n'existent plus, on a juste, je crois, une ou deux enregistrements de vrais castrats encore. On a quand même fait un mélange de contre-ténor et de soprano. Il y avait aussi Ludwig van B. de Bernard Rose en 94, la même année. Donc c'est Gary Oldman qui joue Ludwig et Elisabeth Rossellini qui joue Anne-Marie. Alors c'est à la mort du grand compositeur Anton Schindler, donc il ne faisait pas des listes lui, son légataire testamentaire découvre un testament annulant tous les précédents. Donc il part à la recherche de cette jeune femme à qui Ludwig a tout légué. Là c'est hyper romancé puisque on pousse un petit peu le côté du compositeur pour faire surtout un homme amoureux d'une femme. Mais bon, il n'empêche que voilà, on a quand même un peu sa carrière à ce brave monsieur. Alors par contre, pour le réalisateur, sa surdité est venu à cause de la maltraitance de son père qui le tabassait, donc il le rendait sourd, alors que l'histoire retient, c'est surtout une infection des oreilles.
Une otite, ça s'appelle.
Un otite redine, on appelle ça.
Oui.
Voilà, et puis évidemment, moi...
Amadeus.
Voilà, Amadeus de Milos Forman en 84, la confrontation d'Antonio Salieri, évidemment de Wolfgang Amadeus Mozart, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Salieri régnait à la cour de Vienne, et puis que du jour au lendemain, il y a un petit jeune homme qui arrive et qui écrase tout sur son passage. Lui, il est évincé et il fera tout de sa...
Jalousie.
La jalousie le poussera jusqu'à s'en rendre compte que finalement, ben oui, Mozart, c'est quand même la classe internationale. C'est la flûte enchantée. Voilà. Et puis, évidemment, alors...
Il y en a eu plein sur les compositeurs.
Mais oui, oui, oui.
Parce
oui,
qu'il y en a un qui s'appelle Clara, me semble, sur Schumann. Oui, c'est avec sa femme qui... Mais même ça parle leur retour sur...
Non, mais sur Beethoven, il y en a eu plusieurs aussi.
Le chien.
Oui. Effectivement, le chien, célèbre compositeur de la bave en ré mineur. Donc, et puis évidemment, alors, les, aussi les artistes, puisqu'il n'y a pas que les compositeurs. Camille Claudel,
eh oui, les peintres,
de Bruno,
les sculpteurs.
Oui, en 1988, avec évidemment notre folle de service. Hein,
Isabelle.
Isabelle, et évidemment Auguste Rodin. Oui, à Jeannie. Hein. Et évidemment, Auguste Rodin, joué par Depardieu. De 24 ans, son aîné. Alors évidemment, la vie de Camille, sœur du poète Paul Claudel, et égérie de Rodin. Donc cette femme vouait à la sculpture, soutenue par son père et son frère, et pas sa mère, très important, veut rentrer dans l'atelier de l'illustre Rodin. Rodin. Et elle lui montre son talent et sa détermination. Évidemment, lui va être subjugué. Bon, évidemment, en plus, bon, ça va. Jeannie, elle était jolie encore. Bon, elle devient sa maîtresse, évidemment, son ingérie, voire même son égale, voire peut-être même son supérieur. Donc cette passion l'amènera à la folie, parce qu'elle va vraiment se faire dévorer par cette passion, puisque le seul problème, c'est qu'elle est à une époque où la femme, eh ben, ma foi, restait encore derrière le fourneau, et que pour le milieu artistique, elle restera toujours l'élève de Rodin. Oui. Et donc, elle va être poussée à l'asile, hein, voilà, où elle restera 30 ans quand même.
Jusqu'à sa mort.
Jusqu'à sa mort, hein, voilà, tout à fait.
Il le montre bien dans le film qui est sorti
dernièrement. Oui,
Camille Claudel, 1915.
Effectivement, avec Juliette Binoche.
On voit bien le rôle de son frère qui est quand même pas clair. Aussi. Ça arrangeait bien tout le monde. Là,
oui, mais voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est surtout ça, parce que Paul, évidemment, lui, avait pignon sur rue, puisqu'évidemment, c'était un poète, même si à l'époque...
Voire religieux. Hein.
Oui, aussi. Non, mais ça, je suis d'accord, mais c'est la mère. Moi, ce qui me fait penser aussi à un autre artiste, vraiment dans le même genre, c'est un peu la même histoire d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, je crois qu'ils sont nés la même année, hein, puisque Camille Claudel est née en 1864 et Toulouse-Lautrec est aussi née en 1864. Par contre, il est mort en 1901. Bon, il avait des problèmes de santé, hein, puisqu'il avait les os fragiles. Et d'ailleurs, il s'est fait une double fracture des fémurs, ce qui fait qu'il n'a jamais pu grandir. Il est resté quand même à 1m52. Donc, il y a le film Lautrec de Roger Planchon, avec Anémone qui joue la comtesse, Adèle de Toulouse-Lautrec, Claude Riche qui joue son père, Régis Royer qui joue le fameux Toulouse, Elsa Ziberstein qui joue Suzanne Valando. Alors évidemment, c'est l'histoire de cet artiste bohème, hein, connu pour ses sérigraphies, et surtout c'est le père de l'affiche moderne quand même, quelque part, ce Toulouse. Et en fait, qui sera atteint d'alcoolisme et de syphilis, puisqu'il va vivre, évidemment, dans ce fameux French Cancan qu'on retrouve. Et d'ailleurs, on retrouve son personnage dans Moulin Rouge de Baz Luhrmann.
Donc, puisque tu parlais des artistes qui vivent dans l'ombre d'un maître, moi, je vais te parler de Séraphine.
Ah oui, effectivement, oui.
De Martin Provost, hein, avec Yolande Moreau. Hein.
Ouais, superbe Yolande.
L'illustre Ulrich Tucur. Ornott Tucur, non.
Tucur, c'est Tucur.
Anne Bennett et Geneviève Munich, voilà.
Munich.
Donc c'est en 1912, hein, le collectionneur allemand Wilhelm Hulde, premier acheteur donc de Picasso et découvreur du douanier Rousseau, loue un appartement à Senlis pour écrire et se reposer donc de sa vie parisienne. Il prend à son service une femme de ménage, Séraphine Louis, Yolande Moreau, bien sûr, oui. 48 ans. Quelques temps plus tard, il remarque chez des notables locaux une petite toile peinte sur bois. Sa stupéfaction est grande d'apprendre que l'auteur n'est autre que Séraphine. Donc s'instaure alors une relation poignante et inattendue entre le marchand d'art et la femme de ménage visionnaire. Mais la Première Guerre mondiale éclate et William est obligé de rentrer en Allemagne. Dans l'attente de son retour, Séraphine peint sans relâche. Il lui faudra attendre de longues années avant de pouvoir le retrouver et de voir son talent reconnu dans le monde de l'art. Donc ce film de Martin Provost retrace l'histoire de la peintre Séraphine de Senlis de 1912, l'année où elle rencontre Wilhelm, donc Hulde, jusqu'à son internement en hôpital psychiatrique en 1932, elle aussi, la pauvre.
Oui, mais c'est un peu le cas pour oui. Souvent, hein, d'ailleurs.
Donc le film a été encensé par la critique et a reçu de nombreux prix, dont 7 Césars. Et c'est pourtant que le troisième film du réalisateur après Tortilla y Cinema en 1997 et Le Ventre de Juliette en 2003. Donc je trouve que le lieu Senlis colle parfaitement à l'époque et conserve encore aujourd'hui un aspect suranné. Hein.
Suranné, oui.
Tels les réverbères qui rappellent le 19e siècle. Yolande Moreau incarne parfaitement Séraphine et son choix est déterminant, enfin, le choix du réalisateur.
Hein, oui.
Est déterminant dans
la réussite et la vraisemblance du film. Donc Séraphine finit de la même façon, puisque tu en parlais tout à l'heure, que Camille Claudel. Hein. Il est bien montré que l'héroïne se nourrit à peine, l'essentiel étant pour elle donc de gagner sa vie, c'est-à-dire de peindre. Hein.
Oui, oui.
Mais à force, donc, la malnutrition la conduit presque à la folie.
Oui, oui. Mais là, il y a aussi Vincent Van Gogh, hein, puisque oui. Le fameux comme un peintre néerlandais. Il y avait quand même trois films qui sont connus. Celui de 1956, La vie passionnée de Vincent Van Gogh, avec Kirk Douglas qui joue Vincent. En 91, il y a Van Gogh de Maurice Pialat avec Jacques Dutronc.
Oui, c'est lui qui est quand même connu.
Et puis, en 90, il y a Vincent et Théo de Robert Altman avec Tim Roth qui joue Vincent. Et évidemment, là, c'est vraiment la collusion des deux frères. Très bon. Ce qui me fait penser aussi à un autre artiste, un peu plus contemporain, cette fois, Basquiat de Julian Schnabel en 1996. Donc, l'artiste postmoderne, néo-expressionniste Jean-Michel Basquiat. Donc évidemment avec son pote Andy Warhol qui est ici joué par David Bowie et qui disparaît en 88 à l'âge de 27 ans.
C'est pas de chance. Oui. Puisqu'on est dans la peinture, donc moi je vous parlais aussi des fantômes de Goya de Milos Forman, encore l'unique et lui,
eh oui.
De 2007, donc avec Craig Swenson, Nathalie Portman, hein, Michael Lonsdale et Javier
Bardem.
Oui c'est ça. Donc dans l'Espagne de 1792, à une époque où l'immigration fait encore rage, la jeune muse du peintre, hein, Francisco Goya, se retrouve donc accusée d'hérésie par un prêtre manipulateur. Donc c'est un très bon rappel de l'histoire et un bel hommage à l'œuvre de Goya. Le ton, la reconstitution vestimentaire, là aussi on a pu en parler
quand
on a fait les costumes. Les couleurs, les réalités historiques, donc quelques connaissances sur le sujet sont quand même utiles afin d'apprécier le film à sa juste valeur. L'histoire, à l'exception du cadre historique, est une fiction.
On va attaquer un peu l'histoire, hein, puisque justement tu parlais. Évidemment, moi j'ai Elisabeth.
La reine. Hein.
Oui, la reine Elisabeth en 98. Donc l'assassinat de la reine Elisabeth, qui joue ici par Kate Blanchett, qui est sur le trône d'Angleterre. Elle est la fille d'Anne de Boleyn, donc celle qui a été décapitée, hein, pour haute trahison. Pour l'épouser, évidemment, notre cher Henri VIII a répudié sa première femme, a créé la religion anglicane.
Quelle horreur!
Oui, pour pouvoir divorcer. Donc voilà. Par contre, c'est sa grande demi-sœur, Marie Tudor, ton moulin, évidemment.
Elle était facile.
Voilà, c'est ça là. Donc la fille de Catherine d'Aragon, qui règne, mais hélas, on lui diagnostique un cancer de l'utérus, donc elle ne peut donner d'héritier. Les catholiques craignent qu'Elisabeth, qui est protestante, lui succède. Donc il la pousse, Marie, à l'enfermer dans la tour de Londres. Marie refuse et à sa mort, Elisabeth devient reine. Mais elle doit trouver un prétendant. Et il y a évidemment un complot, puisque son cousin, le duc de Norfolk, veut l'assassiner avec la reine d'Écosse, Marie de Guise, qui est ici jouée par Fanny Ardant. Son conseiller sœur William Cecil, joué par Richard Attenborough, la presse de trouver un époux en lui présentant le duc d'Anjou, qui est joué par Vincent Cassel. Très joli en robe d'ailleurs, dont c'est juste un moment immémorable, dont le conseiller de ce duc d'Anjou, hein, qui sera le futur roi de France sous le nom de Henri III, c'est Éric Cantona qui joue Monsieur deux fois, avec un superbe accent évidemment. Passage là, il vaut vraiment le coup. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver, puisqu'on est vraiment dans les guerres d'Europe, évidemment. La couronne d'Espagne, elle aussi, veut chercher un prétendant à cette reine pour pouvoir la mettre dans son giron, évidemment, lutter contre la France. Les Français veulent, l'engager pour, évidemment, lutter contre l'Empire germanique, puisque les Allemands et les Espagnols étaient sous la même couronne. Évidemment, elle, par contre, elle est toujours amoureuse de son fameux Robert Dudley, premier comte de Leicester, qui est ici joué par Joseph Fiennes. Évidemment, il va y avoir un démêlé et elle décidera de n'être que la fameuse Reine Vierge. En ce qui est marrant, c'est que la même année, il y avait le film Shakespeare in Love. Donc, elles étaient en concurrence pour les Caesar, donc Kate Blanchett dans le rôle d'Elisabeth et Judi Dench pour le même rôle, et c'est elle qui a eu le fameux Oscar. D'ailleurs, c'est très marrant, puisque c'est quand même cette reine qui a permis, évidemment, par mécénat, que William Shakespeare écrive ses pièces, donc le fameux Shakespeare in Love. Il y avait un deuxième, puisque le réalisateur décidait de faire un triptyque. En 2007, il a fait Elisabeth l'âge d'or. En 1585, Elisabeth règne sur l'Angleterre sous la doctrine anglicane donc, hein, et, mais hélas elle est sans héritière puisque la fameuse reine vierge elle a décidé, puisqu'elle ne voulait ni épouser un français, ni un espagnol ou allemand, donc elle a décidé d'épouser l'Angleterre. Donc c'est la fameuse reine vierge. Donc c'est les royaumes catholiques menacent, et surtout l'Espagne de Philippe II, qui voit en Marie Stuart, qui était reine d'Écosse, sa cousine, une sérieuse rivale au trône. Elisabeth doit lutter contre les complots et évidemment les dissensions religieuses de son peuple et son amour pour l'explorateur Walter Raleigh, qui jouait évidemment ici par Clive Owen. Donc c'est lui qui a fondé l'établissement de la Virginie et qui a participé à la fameuse destruction de l'armada invincible espagnole. Donc et cette fameuse Marie Stuart, c'est Elisabeth qui la fera décapiter. Mais l'histoire aura raison puisque c'est son fils Jacques Ier qui succédera à Elisabeth, et ainsi Elisabeth sera la dernière des Tudors et l'accession sera donc à la famille Stuart qui lui réunira puisqu'il était roi d'Écosse et que Elisabeth était reine d'Angleterre et d'Irlande. Il y avait aussi les films Les Deux Sœurs pour un roi de Justin Chadwick. Donc évidemment, c'est le combat d'Anne Boleyn et de sa sœur Marie, donc respectivement, Kyra, voilà, Natalie Portman et Scarlett Johansson. Donc évidemment, pour l'amour du fameux roi Henri VIII, donc le père d'Elisabeth. Il y avait aussi Victoria, les jeunes années d'une reine en 2009 avec Emily Blunt qui joue Victoria. Donc cette reine qui monta sur le trône d'Angleterre à 18 ans et qui eut le plus long règne de l'histoire. Il y a l'essor de l'Empire britannique, l'Amérique, les Indes, l'Australie, l'Afrique du Sud. Donc là, on est plus dans les jeunes années, évidemment, puisqu'elle a un sacré caractère. Et évidemment, il y aura toutes les histoires d'amour, évidemment, puisque là aussi, on en est. C'est, évidemment, c'est un drame d'arriver au pouvoir.
Parce qu'on a eu les mêmes côté français aussi.
Oui, bah oui, parce qu'en France, on a eu la reine Margot de Patrice Chéreau, oui, en 94 avec Adjani, Auteuil, Anglade, Vincent Pérez. Mmh. Alors par contre, ça c'est un peu romancé puisqu'on relève un petit peu de l'histoire et aussi d'Alexandre Dumas. Hein. Donc il y a des histoires avec la Mole, la reine Margot, qui sont pas vraiment vraiment justes, mais voilà. Ça a le mérite d'exister. Il y a Louis XIV, évidemment, le roi d'Anse, donc en 2000 de Gérard Corbiot, donc comme je te disais, avec Benoît Magimel, l'amitié de Louis pour Lully et Molière. Saint-Cyr de Patricia Mazzi, donc Madame de Maintenon et son école de jeunes filles sous l'époque de Louis XIV. Et évidemment, Louis, l'enfant roi de Roger Planchon, de nouveau. Donc les années de la Fronde où Louis apprend le dur métier d'être un roi et dont il gardera la trace toute sa vie puisque c'est à cause ou grâce à ça qu'il a construit Versailles pour avoir tous les seigneurs à ses pieds plutôt que d'en rester dans leur province et être puissant.
Il y a aussi les adieux à la reine.
Oui, les adieux à la reine aussi, avec Marie-Antoinette, effectivement. Aussi,
princesse de Montpensier.
Oui, voilà, mais ça, après, c'est plus...
Il y a quand même quelques effets historiques.
Oui, il y a quelques effets historiques, puisque c'est à des époques. Évidemment, la Madame de Montpensier, c'est le duc de Guise, l'époque des guerres de religion avec Henri IV.
C'est plus une hagiographie.
En moderne, évidemment, la Dame de Fer, hein, de Phyllia Lloyd, avec Maggie, hein, Mme Maggie, hein, comment on dit à l'époque, Margaret Thatcher, qui jouait évidemment par Meryl Streep et qui recevra un Oscar pour ce rôle, qui est évidemment donc le...
Ah si, Iron Lady.
The Iron Lady, oui, la Dame de Fer, hein, bon, version française. Donc, c'est cette fameuse Margaret Thatcher, oui, qui est atteinte d'Alzheimer et qui revit avec son mari disparu, puisqu'elle a des discussions avec lui, de ses origines, de ses parents épiciers, ce qui lui sera toujours reproché dans le parti conservateur, plus que d'être une femme, finalement. Même son combat, sa lutte d'être aux chambres des communes, puisqu'elle est la première femme, donc il y a aussi une lutte des femmes, de la femme pour le pouvoir, sa première élection, puis celle à tête du Parti conservateur, le premier, être première ministre, la guerre des Malouines, aussi, qui est bien retranscrite d'ailleurs dans ce film, et les fameuses grèves contre sa fiscalité locale en 90. Moi je trouve qu'il est très bien fait ce film, parce qu'effectivement, on voit cette femme qui est quand même atteinte d'Alzheimer, qui est quand même à l'ouest, on peut le dire, hein, mais qui se souvient et toutes ces luttes et qui ne comprend pas qu'on ne puisse pas être dans son camp. Je veux dire, à chaque fois les gens lui disent non mais Madame Thatcher, vous vous rendez compte, les pauvres, et non mais elle dit mais ils ont qu'à payer les pauvres quoi. Et moi je trouve que il est très très bien fait pour
ça.
Qu'à
travailler.
Mais voilà, oui mais c'est ça. Et mais alors par contre on a souvent reproché à ce film, mais c'est aussi le même truc pour La Chute, là, donc les derniers jours d'Adolf Hitler, c'est de donner presque un visage humain à des personnages qui sont quand même que l'histoire retiendra quand même sous bon, peut-être plus Hitler forcément que Thatcher, sous un moment un mauvais visage quoi.
Oui. Donc voilà. Puisque tu es dans l'Angleterre, moi je vais vous parler de Michael Collins. Oui. de Neil Jordan en 1996, donc avec Liam Neeson, hein, Julia Roberts, Aidan Quinn et Alan Rickman. Donc c'est la puissante Angleterre a toujours connu la contestation de la part de sa plus proche colonie, c'est-à-dire l'Irlande. Mmh. Pendant 700 ans, les révoltes ont été jugulées. Mais en 1916, une rébellion éclate à Dublin qui changera le cours de l'histoire. Donc l'artisan de cette révolte, un homme de l'ombre, hein, voué à son pays, s'appelait Michael Collins. Donc il a eu le Lion d'or à la Mostra de Venise en 1996. Donc c'est basé sur des faits réels, puisqu'en 1916, l'insurrection de Pâques, hein, comme on l'appelle, qui fut quand même un échec, hein, oui, tant sur le plan militaire que politique, puisque le soulèvement ne fut pas général, hein, ça a été ciblé que sur Dublin. Donc ça a été un effet de surprise au début, hein, mais la contre-offensive de l'armée britannique modifia la donne grâce notamment à l'époque au téléphone, hein, qui permit l'alerte générale et l'intervention des renforts. Donc il y a eu au moins, je crois, 400 morts. Donc la répression élimina donc ce que le camp républicain comptait de penseurs et d'activistes. Oui. Moi, qui est un très beau film.
Il y a The Lady, puisqu'on reste un peu dans, moi je reste dans un peu dans La Lady, oui. The Lady de Luc Besson. Donc la vie d'Aung San Suu Kyi, hein, là, une femme politique birmane dont le père a été abattu par ses rivaux politiques. Le film commence d'ailleurs comme ça. Hein. Et sa montée, son mariage avec le Britannique Michael Harris, qui est joué par David Willis, Aung San Suu Kyi joué par Mark Liu. David Willis, lui, qui a joué dans 7 ans au Tibet, qui est aussi un biopic, hein, qui est quand même mondialement connu pour son rôle de Remus Lupin dans Harry Potter. Donc voilà, donc c'est évidemment ça part depuis 98 jusqu'en 2007, hein, le soulèvement des moines bouddhistes contre la junte militaire, sa liberté surveillée, son prix Nobel de la paix, son histoire avec son mari qui est atteinte d'un cancer de la prostate, hein, qui le cachera toujours à sa femme, puisqu'il met toujours en avant sa lutte à elle et ses deux fils aussi. Donc il y a vraiment une histoire là, le réalisateur, donc Luc Besson, s'est plus attaché évidemment à ce problème entre guillemets de la relation homme-femme, puisque elle est dans sa lutte et lui il va tout faire au niveau international pour qu'on s'intéresse à son cas. Donc, mais voilà, il y a plus, moi je pense que le film est plus tourné sur lui que sur elle, mais il est très bien fait. Moi j'avais aussi le JFK d'Oliver Stone, hein, donc en 91, sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy
avec Kevin Costner,
qui joue évidemment le procureur de la Nouvelle-Orléans Jim Garrison, qui a contesté les conclusions du rapport de la commission Warren et qui a orienté son enquête vers la possibilité d'un complot, et qui est très bien fait. Évidemment, Coluche, l'histoire d'un mec, d'Antoine Decaune, donc évidemment avec François-Xavier de Maison qui joue Coluche. Donc c'est l'histoire évidemment de Coluche qui se présente aux élections. D'abord, on a cru à une farce, mais évidemment, l'histoire retiendra qu'il a fait trembler les politiques avant l'inverse.
Il y a aussi, puisque tu y es en politique, Mrs. le lapsus, Harvey Milk, donc de Gus Van Sant, hein, avec Eric Stoltz, Sean Penn, Josh Brolin et Emily Hirsch. Mm-hmm. Donc l'histoire vraie des 8 dernières années de la vie d'Harvey Milk, hein, qui est joué donc par Sean Penn. Il fut le premier homme politique gay dans les années 70 avant d'être assassiné par Dan White, hein, qui est joué par Josh Brolin, à San Francisco, en Californie, avec le maire de la ville, George Moscone, qui est joué par Victor Garber. Le 27 novembre donc 1978, il a ainsi payé de sa vie le fait de s'être battu pour la tolérance et l'intégration des communautés gays. Son action a durablement marqué l'histoire et changé les mentalités. Employé dans la finance, donc Harvey Milk quitte New York en 1972 pour rejoindre San Francisco, ville de la cause homosexuelle, avec son compagnon Scott Smith, hein, qui est joué par James Franco. Ensemble, ils montent un magasin de photos où se retrouvent bientôt tous les militants de la cause gay. Puis, ils décident de se porter candidat au poste de conseiller à la mairie. Il lui faudra donc 3 campagnes avant d'être enfin élu en 1977 au conseil des superviseurs. Alors que son combat commence enfin à porter ses fruits, ses détracteurs deviennent de plus en plus virulents. Ce film de Gus Van Sant retrace donc la vie d'Harvey Milk, un homme politique américain qui a lutté pour les droits civiques des homosexuels dans les années 70. Harvey Milk, donc sorti aux États-Unis pour l'anniversaire des 30 ans du décès du politicien, a remporté plusieurs récompenses, dont 2 Oscars, donc meilleur acteur et meilleur scénario original. L'interprétation sans faille, il faut lire aussi, de Mr.
Sean Penn et compagnie. Excellent film donc relatant la révolution gay sans être racoleur.
D'ailleurs, je retombe sur mon J. Edgar et Clint Eastwood, puisqu'évidemment, on voit évidemment la vie du directeur de la FBI, qui est joué ici par Leonardo DiCaprio. Qui l'a dirigé pendant 50 ans, hein, pas Leonardo DiCaprio, hein, J. Edgar.
Oui.
Donc lui qui a fait trembler le pays.
L'homme au dossier.
Et ce film s'intéresse d'abord, certes, à sa réussite pour monter évidemment le FBI, sa lutte contre le Congrès, mais c'est surtout sa relation extra-professionnelle avec son bras droit, Clyde Tolson. Donc là, évidemment, on rejoint un petit peu Harvey Milk.
Moi, je vais vous parler du chef-d'œuvre britannique, Lawrence d'Arabie.
Ah oui, Lawrence d'Arabie.
De David... Lynn, merci, avec Peter O'Toole, Alec Guinness, comme la bière, Arthur Kennedy, Claude Raius, Anthony Quinn, Omar Sharif.
Et Omar Sharif quand même.
Donc c'est le destin hors du commun de l'officier britannique T.E. Lawrence qui mena donc la révolte arabe contre l'oppresseur turc au cours de la Première Guerre mondiale. Mmh. Il fallut plus de 2 ans de travail de détective et d'archéologue au producteur donc Robert Harris, hein, à qui l'on doit la restauration du Napoléon d'Abel Gance,
oui.
Pour reconstituer donc la première version 70 mm intégrale de Lawrence d'Arabie. Et d'ailleurs, je crois qu'on retrouvera les deux mêmes qui ont fait aussi le pont de la rivière Kwai.
Oui, tout à fait. Oui.
Donc ce film est considéré comme un des chefs-d'œuvre du cinéma. Il a été récompensé par 7 Oscars, dont celui du meilleur film. Il propulsa Peter O'Toole et Omar Sharif au rang de légende du cinéma. Le tournage a duré plus d'un an, donc de 61 à octobre 62. Une partie de ce tournage s'est déroulée à Almeria, en Espagne, hein, pour les scènes qui se passait dans le désert, ainsi qu'au studio Texas Hollywood. Hein. La place d'Espagne à Séville a été utilisée pour figurer le Cairo Great Britain Army Headquarters,
ouais.
Quartier général. Hein.
Oui.
D'autres scènes furent tournées au Maroc, notamment à Agadir et à Ouarzazate, ainsi qu'en Jordanie et Syrie. Puis il y a aussi la parole de ce film est réservée aux hommes. Aucune femme ne parle tout le long du film.
Et moi, ça me fait penser un petit peu, bon, c'est pas vraiment dans les mêmes époques, c'est l'Aviator de Martin Scorsese en 2004. Donc la vie d'Howard Hughes, de son film Les Anges de l'Enfer jusqu'au vol de son avion, le Spurs Goose, qui veut dire oie en sapin. Terme détesté par Howard Hughes, et donc, puisque c'était le Hughes H4 Hercule. Donc en fait, c'était un immense hydravion. Hein. Évidemment, il n'était pas vraiment le plus grand, hein, puisque le plus grand reste quand même l'Antonov 225 ou l'Airbus 380, mais c'était au niveau de l'envergure et de la hauteur. Un homme de pouvoir avec de nombreuses femmes, Catherine Hepburn, qui est jouée par Cate Blanchett, Eva Gardner, qui est jouée ici par Kate Beckinsale, et qui engage un terrible bras de fer avec la compagnie Panam, pour permettre à sa compagnie, la TWA, de pouvoir voler sur les lignes internationaux. Évidemment, il souffre de multiples obsessions compulsives qui lui rongeront jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'il meurt en 76. D'ailleurs, il passe les 8 dernières années de sa vie alité à regarder des films. Ça aurait fait un superbe animateur pour ATC, ça. Donc, il vivait nu, il était drogué à la morphine, puis à la codéine. Et oui, c'était un adepte du Dr. House. Il ne se coupait ni les cheveux, ni la barbe, ni les ongles. Il ne pesait plus que 40 kilos. Et d'ailleurs, il souffrait d'insuffisance rénale et de malnutrition, forcément. Et il n'a été reconnu que grâce à ses empreintes, ce brave monsieur. Donc,
puisque tu es dans le milieu de l'aviation, moi, je voudrais vous parler d'Amelia, de Mira Nair. Donc, l'américaine Amelia Earhart fut une première de l'aviation et une femme d'exception. Première femme donc à traverser l'Atlantique en avion, elle fut l'une des personnalités les plus célèbres et les plus admirées de son temps. Même une fois devenue une icône, Amelia ne renonça ni à son amour du danger, ni à son esprit d'indépendance. Elle fut une source d'inspiration pour tous, y compris pour la première dame américaine, Eleanor Roosevelt, et pour les hommes de sa vie, son mari, donc George Putnam, mania de l'édition qui géra sa carrière et orchestra sa gloire, et son ami et amant le pilote Gene Vidal. Lors de l'été 1937, donc Amelia se lança dans son pari le plus fou, un vol en solitaire autour du monde dont elle savait que l'issue, quelle que soit, la ferait entrer dans l'histoire. Dans le rôle d'Amelia, on trouve Hilary Swank, il y a aussi Richard Gere, Marina Stone,
Iron Man ?
Non, Aaron Abrams et Ewan McGregor aussi. Donc c'est une femme, une histoire, donc des images, de la musique, des émotions, du romantisme.
et bien sûr des avions. Donc on retrouve dedans le Booker, le Tiger Moss, le trimoteur Fokker.
Ah oui, le Fokker.
Le Fokker.
Non, pas le Fokker.
Le Voga, donc dessiné par Northrop, hein, et l'inoubliable, bien sûr, Lockheed Electra, hein, le fameux avion d'Amelia.
Oui, oui.
Donc, l'une des personnalités les plus célèbres et les plus admirées de son époque, puisqu'elle a été recherchée et jamais retrouvée, même si on a retrouvé des fragments.
De son avion, oui.
Non, des eaux aussi, puisqu'elle était partie avec son mécano. Ah. Et ben, on n'a jamais retrouvé. Donc, il y a plusieurs hypothèses comme quoi elle aurait été capturée, puisqu'à l'époque, c'est avec les Japonais.
Ah, d'accord.
Donc il y a plusieurs hypothèses, soit ou alors elle aurait atterri sur une petite île, mais personne ne sait.
Ouais, voilà, c'est ça. Oui, puisqu'il faut savoir quand même que le dernier soldat japonais qui se soit rendu après la guerre, ça a été en 75. Moi aussi, puisque on parle évidemment de comment ça s'appelle, de personnalité, il y a aussi des films plus pour anonymes, hein, puisqu'on va quand même leur donner le droit de s'exprimer. Il y avait 127 heures. De Danny Boyle, de l'autobiographie Plus fort qu'un rock d'Iron Rolston avec James Franco, donc le magicien d'Oz. Donc évidemment, c'est cet homme qui est parti dans les gorges de l'Utah et qui a lutté pour sa vie.
127 heures. Qui s'est coupé le bras, voilà, je crois, c'est ça. Parce qu'il il a fait une chute, il était coincé.
Donc il a dû se couper le bras. Donc voilà, et bien, évidemment, c'est une histoire vraie. Donc. Ça rentre dans le cadre du biopic. Mais là, évidemment, c'est une personne. Enfin, il est célèbre depuis, hein, puisqu'il a fait son autobiographie. Oui. Mais voilà, ce n'est pas une personnalité.
Je vais quand même vous citer Blau à la fin des années 60, donc sur la côte ouest des US. Le commerce des stupéfiants connaît un véritable essor. C'est dans ce contexte que George Young, bien sûr, joué par Johnny Depp, donc un Américain moyen, souhaite mener une vie trépidante et divertissante. George voyage donc alors en Californie, état du soleil et de la nonchalance. La marijuana étant lucrative et facile à revendre, il compte tirer profit de ce commerce florissant. Avec un sens inné des affaires et la complicité de Barbara, donc qui est jouée par Franca Potente, et Derek Forill, hein, joué par Paul Rubens, il met sur pied le premier réseau californien de drogue douce. La soif de richesse le gagne rapidement, mais la réalité le freine aussi vite. Il est arrêté et mis en prison. Bingo. Derrière les barreaux, donc, il fait la connaissance de Diego Delgado.
Hey, si Diego.
Un détenu.
Un cavalier qui sortonne de la nuit.
Oui, c'est ça. Qui se vend donc très régulièrement en contact avec d'importants trafiquants colombiens. Diego lui prouve qu'il ne mentait pas et le présente à Pablo
Escobar.
Tout à fait. Qui est joué par Cliff Curtis, chef du cartel de Medellin. C'est également grâce à Diego que le trafiquant américain fait la connaissance de Myrta, qui est jouée par Penelope Cruz. Une ravissante jeune femme dont il tombe aussitôt amoureux.
Donc
c'est mignon. Hein.
Mignon. Oui.
Love, love. Ce film de Ted Demme est inspiré de la vie de George Young, un trafiquant de drogue qui a joué un rôle très important dans l'importation de cocaïne aux États-Unis dans les années 70-80. Lors des scènes de cocaïne, les acteurs sniffaient du lait en poudre. Hein. Donc pour préparer son rôle, donc Mr. Deep hein, est allé rendre visite directement en prison, hein, puisqu'il y est toujours, au véritable George Young.
Oui, parce que Pablo, ça va être un peu difficile.
Oui,
il a un peu mouru.
Donc c'était... Il y a aussi Bonnie and Clyde. Hein,
oui, Bonnie and Clyde, oui, oui.
Qui est un film américain donc réalisé par Arthur Penn en 1967, basé sur la vie de Bonnie and Clyde, qui est considéré comme un film culte, l'un des premiers succès du nouvel Hollywood, hein,
oui.
Qui brisa plusieurs tabous cinématographiques. Le succès du film encouragea d'autres réalisateurs de faire des films où sont représentées des scènes de violence ou de sexe. La scène finale est iconique, hein, car à l'époque, elle était une des scènes de mort les plus sanglantes de toute l'histoire du cinéma.
Logiquement, elle est fausse, mais bon.
Ah, fallait pas le dire. Bonnie and Clyde a été sélectionné par le National Film Registry pour être conservé à la bibliothèque du Congrès aux États-Unis, t'as qu'à voir, hein, pour son importance culturelle, historique et ou esthétique en 1992. Donc c'est au cœur des petites bourgades de l'Amérique des années 30, ravagée par la Grande Dépression, sévit le gang formé par Bonnie Parker, donc Faye Dunaway, et Clyde Barrow, Warren Beatty, spécialisé dans le braquage de banque. Ils se sont rencontrés lorsque Clyde braque la voiture de la mère de Bonnie. Bonnie qui s'ennuie donc dans son travail de serveuse est intriguée par Clyde et décide de le suivre et de devenir un associé. Ils vont de braquage en braquage qui, malgré l'excitation procurée, ne sont pas très lucratifs. Donc, bravant aveuglement la loi, le couple et leurs complices doivent bientôt faire face à leur destinée tragique.
Donc, comme je disais, parce que logiquement, ils n'ont pas eu le temps de tirer. Hein. Les mecs, ils ont tiré avant, mais ce qui fait rappeler le
comme
fameux...
Comme
Messrine. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, le film avec Vincent Cassel en deux films. Donc, L'ennemi public numéro 1.
Et Instant Mort.
Ouais, Instant Mort. Et celui-là aussi, il vaut beaucoup parce qu'évidemment, on voit le personnage de Mérine. Hein,
de dire, Québec. Hein.
Voilà, c'est ça. De son passage au Québec, tabarnak. Et puis surtout, ce côté médiatique qu'il cherchait jusqu'à, évidemment... son décès.
Donc pour finir avec Bonnie and Clyde, donc le film est produit par son acteur principal Warren Beatty qui imposa Arthur Penn comme réalisateur auprès de la Warner. C'était à l'époque où encore les acteurs avaient du poids. Donc Beatty n'était pas convaincu par le choix de Faye Dunaway et du reste, les deux acteurs ne s'entendaient guère sur le tournage. Au départ, c'est d'ailleurs à Jane Fonda que le rôle avait été proposé, mais habitant alors en France et ne souhaitant pas s'installer aux États-Unis pour le tournage, elle refusa. La réalisation du film fut proposée à François Truffaut, mais ce dernier déclina l'offre pour s'occuper de la réalisation de Fahrenheit 451. Oui. Déjà avant sa sortie en salle, le film fut critiqué pour la glamourisation des deux tueurs ainsi que pour sa violence et son humour noir. Mais au final, il trouva un accueil critique et populaire. Le film est sorti juste un an avant les événements de mai 68 en France. Donc l'engouement du jeune public pour le film s'explique sans doute par le fait qu'il met en vedette des héros au comportement juvénile et en quête d'un épanouissement sexuel. En résumé, un véritable échappatoire pour une jeunesse alors à la recherche de nouveaux repères. Donc au moment d'une course-poursuite, deux voitures donc dévalaient une colline face caméra et s'approchaient progressivement au premier plan. Un mouvement de caméra brusque au moment où la première voiture arrive au premier plan à vive allure trahit la peur du cadreur à ce moment-là. Le véhicule donc esquive la caméra au dernier moment.
Puis moi ça me fait penser aussi à Dillinger puisqu'il y avait le public numéro 1 avec Johnny Depp aussi puisque c'est là aussi abattu dans un cinéma.
Donc, juste pour conclure, je vais parler d'un film italien qui s'appelle Il Divo qui est sorti en 2008 de Pablo
Neruda.
Somantino. Oui, donc c'est à Rome, à l'aube, quand tout le monde dort, il y a un homme qui ne dort pas. Cet homme s'appelle Giulio Andreotti. Il ne dort pas car il doit travailler, écrire des livres, mener une vie mondaine et en dernière analyse, prier. Calme, sournois, impénétrable, Andreotti est le pouvoir en Italie depuis 4 décennies. Au début des années 90, sans arrogance et sans humilité, immobile et susurrant, ambigu et rassurant, il avance inexorablement vers un 7e mandat de président du Conseil. Tiens, donc ça rappelle un peu quelqu'un.
Tiens.
À bientôt 70 ans, Andreotti est un gérontocrate qui, à l'instar de Dieu, ne craint personne et ne sait pas ce qu'est la crainte obséquieuse. Habitué comme il est à voir cette crainte peinte sur le visage de tous ses interlocuteurs, sa satisfaction est froide et impalpable. Sa satisfaction, c'est le pouvoir avec lequel il vit en symbiose. Un pouvoir comme il aime, figé et immuable depuis toujours. Où toutes les batailles électorales, les attentats terroristes, les accusations infamantes glissent sur lui au fil des ans sans laisser de traces. C'est un très bon film donc sur la politique qui montre un peu les magouilles politiques, mafieuses et compagnie.
Voilà, super.
Que ce pays a
une belle
subir,
histoire italienne. Comme oui, on dit. C'est vrai que c'est difficile. On en a parlé quelques-uns, que ce soit effectivement des chanteurs, que ce soit des artistes,
des sportifs,
des sportifs ou même des gens d'histoire, d'hommes politiques. Évidemment,
parce qu'il y avait la conquête aussi.
Oui, il y avait la conquête aussi. Oui,
Nicolas National
avec le petit Nicolas. Mais effectivement, c'est difficile. Non, on a fait un petit échantillon. Donc voilà.
On devait parler un peu du pastel.
Oui, alors.
Point le programme, nous n'avons.
Non, point le programme. Alors, j'ai eu quelques confidences.
Sur oreiller.
Non, pas sur oreiller. Qu'il y allait avoir, évidemment, notre cher ami Gatsby, le magnifique. Oui. Qu'il y allait avoir le retour de Sugarman. Pour ceux qui l'ont loupé, dont moi d'ailleurs.
Il y aura aussi, sur la journaliste qu'on avait envoyée en Israël lors du procès d'Einstein.
Oui, Anna Arendt.
Voilà,
c'est
ça. Je pense que c'est ça.
Oui, aussi. Et puis, pas mal de films sur la danse aussi. Et évidemment, pour les plus petits, il y a Epic. Le film d'animation dont on avait déjà parlé, qui évidemment désormais sort. Évidemment, le jardin comme champ de bataille entre les forces écolo et les méchants qui veulent détruire la Terre. Voilà. Donc ça a été évidemment un petit passage hyper rapide de notre ami Pestel, mais on s'en occupera plus la semaine prochaine parce que nous avons été débordés par les biopics.
C'est cela.
Donc, mon cher Hugo, de quoi que nous allons parler la semaine prochaine ?
Eh bien, la prochaine fois, ATC débarquera à Zombieland.
Oui, des zombies !
Voilà,
super.
Des zombies. Et...
des zombies. Rob Zombie, nous voilà.
Et encore des zombies.
Voilà, c'est ça. On voit donc un dernier mot de notre ami zombie.
Au revoir. Au revoir.
I love the smell of napalm in the morning.
Life is like a box of chocolates.